nous ayons espérance. Donc toutes ces paroles que nous lisons là et dans tous les livres de l'Ancien Testament sont là pour notre consolation, pour notre avertissement, nous dit aussi un autre passage, pour que nous puissions progresser dans la vie chrétienne. Donc elles ne sont pas inutiles. Et nous avons là une figure donc de ce Josué qui représente le peuple, mais qui représente aussi tout homme pécheur qui n'est pas encore venu au Seigneur Jésus. Et si quelqu'un ici ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, il est temps évidemment de venir à celui qui veut nous faire passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière, celui qui veut nous donner la vie, et pas la vie passagère, mais la vie éternelle. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc ce Josué représente aussi ceux qui n'ont pas encore cette vie éternelle, qui sont revêtus de vêtements sales. Eh bien, viens, dit l'Éternel, viens, je veux te tirer. Il y a un passage de l'évangile de Jean qui dit que « Nul ne vient au Père, c'est le Seigneur Jésus qui le dit, à moins que le Père ne le tire. » Et Dieu veut tirer encore des hommes aujourd'hui. Et nous devons prier, chacun de nous, les croyants, pour que des hommes viennent encore à la connaissance du Seigneur Jésus. Il nous faut prier tous les jours pour tous les hommes, ceux que nous rencontrons bien sûr ici ou là, mais tous les hommes, pour que beaucoup puissent venir encore au Seigneur Jésus, et prier pour tous les serviteurs qui annoncent la parole, où que ce soit, dans quelque pays que ce soit, dans quelque lieu particulièrement ténébreux que ce soit. Eh bien, tout cela donc, revêtus de vêtements sales, ils vont revêtir des vêtements de fête. Pas des vêtements nouveaux, des vêtements de fête. Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Et puis un peu plus loin, on voit Josué sous un autre aspect. Verset 8. Écoute, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui servent de signes. Ce sont des hommes qui servent de signes. Car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Je ferai venir mon serviteur, dit Dieu, le germe. Alors c'est qui ce germe-là? Quand il est dit, nous allons voir quatre expressions où il est question de ce germe. Beaucoup d'entre nous connaissent cela, bien entendu. Je ne fais que le répéter. Alors quand il est dit mon serviteur, le germe, cela nous rappelle l'évangile de Marc, où le Seigneur Jésus est présenté comme le serviteur parfait. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Ensuite, dans le même livre de Zacharie, on voit le même terme, au chapitre 6 et au verset 12, « Voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, il bâtira le temple de l'Éternel, lui il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, et il s'assiera et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône. » Il y a beaucoup de choses, on le dira tout à l'heure sur ce verset-là. Mais déjà, le mot « germe ». Voici un homme dont le nom est germe. Un homme. Jésus-Christ, fils de l'homme. Fils de l'homme. On a vu là Jésus, serviteur, évangile de Marc. Le fils de l'homme, c'est l'évangile de Luc. Nous le savons. Et on voit un autre passage en Ésaïe au chapitre 4, où on trouve ce même terme, toujours prophétiquement bien sûr, au verset 2, « En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire. » Un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire. Quel est l'évangile qui nous parle de ce germe du Seigneur Jésus dans cette conception-là, pour splendeur et pour gloire? C'est bien entendu l'évangile de Jean, qui nous présente la gloire de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà la troisième expression. La quatrième expression où il est question de germe, c'est dans Jérémie 23. Donc vous voyez l'importance de ce livre de Zacharie, où on voit déjà le Seigneur Jésus au travers de ce terme. Jérémie 23, voilà la quatrième expression concernant le germe. Verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Et je susciterai à David un germe juste, à David. Nous savons que Jésus est né de la lignée de David, bien entendu. Je susciterai à David un germe juste, et il règnera en roi, et prospérera, exercera le jugement, etc. Je susciterai à David un germe juste, il règnera en roi. Quel est l'évangile, quatrième évangile qui nous parle de ce roi? C'est l'évangile de Matthieu, bien entendu. Donc voilà, nous avons les quatre évangiles qui sont représentés. Deux qui sont représentés dans le livre de Zacharie, un dans Ésaïe, l'autre dans Jérémie, mais nous voyons le Seigneur Jésus partout, et c'est ça qui est important. Dans toute la parole de Dieu, comme un fil d'or, et cela a été dit bien des fois, nous voyons le Seigneur Jésus qui apparaît. Et il est ce germe qui germera, ce germe juste, qui est arrivé maintenant, bien sûr, nous le connaissons, et qui devait arriver. Donc il est annoncé au peuple. Il ne pouvait pas dire le peuple qu'il était ignorant. Tout était prévu, tout était annoncé. Donc c'est dans cette merveilleuse vision, cette quatrième vision, où il est question de ce germe. Je lis un peu plus loin, toujours dans le chapitre 3 de Zacharie, au verset 9. « Car voici la pierre que j'ai placée devant Joshua. Sur cette seule pierre, il y aura sept yeux. » Alors la pierre, nous savons que nous pouvons trouver cela aussi dans beaucoup de passages de la parole. Sur cette seule pierre, une seule, hein, la pierre de coin, la maîtresse pierre de coin, l'oublions pas, hein, il y aura sept yeux. Voici, j'en graverai la gravure, dit l'Éternel des armées, etc., etc. Et ces sept yeux, ce sont quoi? Ce sont les sept esprits de Dieu qui nous sont décrits dans Ésaïe au chapitre 11. Chacun pourra les trouver. Je passe ensuite à la cinquième vision, c'est le chandelier. Donc cinquième vision, c'est au chapitre 4, verset 2, milieu. « Voici un chandelier tout d'or, et une coupe à son sommet, et sept lampes sur lui, sept lampes et sept conduits pour les lampes, tout est sept, vous voyez, qui sont à son sommet, et deux oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe, et l'autre à sa gauche, etc., etc. » J'arrête là pour le moment. Ça signifie quoi cela pour nous? Le chandelier, nous le savons, il est décrit dans, comme tous les ustensiles du tabernacle d'ailleurs, dans l'Exode au chapitre 25 essentiellement, et ce chandelier nous rappelle Christ. Il y a sept branches aussi, je parlais des sept esprits de Dieu, la perfection, le chandelier, c'est Jésus. Tout d'or, une seule pièce, nous le savons, battu d'une seule pièce. Pourtant il était compliqué, avec des corolles, avec des formes assez compliquées. Eh bien tout était battu d'une seule pièce d'or. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ, ce chandelier. Et près de lui, il y a quoi? Il y a deux oliviers, au verset 3. Et deux oliviers auprès de lui. C'est quoi ces deux oliviers auprès de lui? Eh bien, cela a plusieurs significations. D'abord, ici, dans le contexte de Zacharie, ils sont clairs, ces deux oliviers. C'est les deux personnages dont il est question au début, nous en avons parlé. C'est Zorobabel et Joshua. Les deux ouvriers, si l'on peut dire, au travers de ce livre, qui sont là pour introduire ce roi, dont nous dirons quelque chose un peu plus loin, au chapitre 9 en particulier. Eh bien, ils sont là, ces deux. Plus tard, il y aura aussi ces deux témoins, la même chose. En Apocalypse 11, on peut le lire si vous voulez, il y aura ces deux témoins plus tard, alors que l'Église sera auprès du Seigneur. Verset 4, « Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Et verset 6, « Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. » Qui est-ce qui avait le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie? Qui est-ce qui a manifesté cela dans l'Ancien Testament? C'est Élie. Élie, oui, avait ce pouvoir-là de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie. Un peu plus loin. Et verset 6, toujours au milieu, « Ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang. » Qui c'est qui avait le pouvoir pour cela? Moïse. Donc voilà ces deux serviteurs, ces deux témoins, Élie et Moïse. Et où les trouvons-nous encore, ces deux serviteurs et témoins? Dans un endroit extrêmement beau, sur la montagne de la Transfiguration. Matthieu, chapitre 17, vous connaissez tout ce passage, vous le relirez pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Moïse et Élie aussi, qui sont là auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien c'est beau cette figure des deux témoins, des deux oliviers, etc. Et ici déjà en Zacharie, il y en avait deux, c'était Zorobabel et Joshua. Ensuite on passe, verset 6 du chapitre 3, « Et il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, donc, disant, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? te deviendra une plaine, etc., etc. Et il fera sortir la pierre du fait. Il fera sortir la pierre du fait de cette grande montagne, montagne de la transfiguration, où il s'est trouvé notre Seigneur. Tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. La grâce de Dieu qui est là, qui a permis que Jésus-Christ vienne sur la terre pour nous sauver, qui a été vu sur cette magnifique montagne avec ses deux témoins, eh bien voilà, c'est indiqué déjà là, dans ce livre de Zacharie. C'est un très très beau livre, ce livre de Zacharie. Je vous incite à le lire et à le relire, parce qu'il est magnifique. On le néglige peut-être un peu parfois, où on passe au chapitre 13 pour nous parler de ce qu'on verra dans le futur, les marques, etc., qu'on va voir sur le Seigneur Jésus, bien sûr, c'est très important, on le dit souvent au culte. Mais là, il y a des figures, il y a des choses magnifiques dans ce livre. Ensuite, la sixième vision, c'est au chapitre 5. Et de nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici un rouleau qui vole. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées, 10 mètres de long, dans sa vision, 20 coudées, grand rouleau, qui vole en plus. Et il me dit, que vois-tu? Je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées, et large de 10 coudées, 5 mètres donc. Et il me dit, c'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Donc on est arrivé jusqu'à la quatrième vision, à des visions de bénédiction pour le peuple, en parlant de Jérusalem, en parlant de Joshua, en parlant du germe, etc., etc., du Seigneur Jésus qui allait venir. Mais en attendant, attention, il va y avoir des malédictions si vous ne revenez pas à l'Éternel. Il y a des choses qui vont se passer. Et c'est le cas de ce rouleau qui vole. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? C'est ici la malédiction, verset 3 du chapitre 5, qui sort sur la face de toute la terre, car tout voleur sera détruit selon ce qui est écrit d'une part, et chacun qui jure sera détruit selon ce qui est écrit d'autre part, etc., etc. Celui qui jure faussement, verset 4, et puis au verset 5, et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève les yeux et regarde, qu'est-ce qui sort de là? Et je dis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Et voici un disque de plomb fut soulevé, et ça c'est la septième vision maintenant, un disque de plomb fut soulevé, et il y avait là une femme assise au milieu de l'épha, et il me dit, c'est ici la méchanceté. Il y a ce rouleau qui vole, qui annonce le jugement, mais il y a en même temps cette femme qui a annoncé là, Jézabel, Babylone, Babylone la grande prostituée, celle qui va corrompre tout le peuple, qui va être la fausse église aussi, il y a les deux aspects. Eh bien, c'est déjà donc indiqué ici, et on trouve cela dans l'Apocalypse, bien entendu, et c'est la septième vision. La huitième vision, c'est le chapitre 6, et les quatre chars. Et de nouveau, je levai mes yeux, verset premier du chapitre 6, et je vis, et voici quatre chars qui sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain, etc., etc. Verset 5, ce sont les quatre esprits des cieux qui sortent de là, où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Celui auquel sont les chevaux noirs sont vers le pays du nord, etc., le pays du midi, enfin bon, quatre royaumes qui vont revenir pour fondre sur ce peuple impie. Parce qu'aujourd'hui, le peuple qui est en Israël, qui est à Jérusalem, malheureusement, c'est un peuple impie, un peuple qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Et il y aura encore des jugements terribles, et sans doute que Jean-Philippe nous en parlera, concernant Jérusalem, avant qu'arrive le grand jour où Dieu va enfin mettre de l'ordre parmi ce peuple. Eh bien, donc, en attendant, il y aura ces quatre esprits qui descendent du ciel, quelque chose de terrible, donc, un jugement contre les impies. Alors, c'est vrai pour les nations, bien sûr, aussi, hein. Alors, je reviens un tout petit peu sur la fin du chapitre 6 que j'ai évoqué tout à l'heure à propos du germe. Et j'ai lu, et je le relis en fait, la fin du verset 12. Un homme dont le nom est germe, il germera de son propre lieu, c'est-à-dire du ciel. Il bâtira le temple de l'Éternel, pas un temple de pierre, mais le vrai temple de l'Éternel. C'est-à-dire ce peuple qui reviendra, ce résidu qui reviendra. Il germera en son propre lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple. Lui, il est bien insisté. Lui seul peut le faire. Comme lui seul bâtit l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce qui bâtit l'Église aujourd'hui? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des serviteurs qui construisent l'Église? Non, ils aident bien sûr. Ils font un peu de mortier pour assembler les pierres. Mais qui est-ce qui construit l'Église? C'est le Seigneur Jésus.